Merci Thomas de cette discussion sur les propositions du Bérodari. Ce que je propose pour commencer la troisième partie de notre séance, qui sera un débat, de laisser d'abord la parole à Hubert, s'il veut faire un commentaire sur la discussion qui a été faite, ou sinon tout de suite ouvrir le débat et à ce moment-là demander qui veut poser la première question. Il doit y avoir un micro qui va circuler parmi vous. Voilà. Voilà.
Oui, trois mots pour remercier Thomas parce que son travail est puissant et profond. Et je retiens la dernière conjecture. Hein, plus les donc issue du commentaire de Dupuis, hein, plus les rapports sont réglés au niveau individuel, plus apparaît un ordre dans lequel disparaît l'individu. Cette notion de transcendance, c'est exactement ce qui a été pointé en disant que ce fameux golem survient et paraît inaccessible, hors de contrôle, avec cette anonymisation du pouvoir que l'individu subit et dans lequel il se sent obligé d'agir. Il y a un autre point également, c'est la caractéristique de ce mouvement. Il est quand même imprégné de ce que j'ai appelé une économicisation des relations sociales, plus qu'une financiarisation, c'est-à-dire on va traiter l'ensemble des relations sur la base économique avec des bilans co-avantages. Alors je fais un petit développement dans mon livre sur la déformation du droit et l'altération des principes sacrés du droit par l'utilisation systématique de la qualification de ce principe par, le bilan co-avantages. Mais l'approche coût-bénéfice, elle est problématique parce qu'elle incite toujours à l'action. Et c'est là où je rejoins ce que disait Thomas tout à l'heure sur la cybernétique. Elle est embarquée dans un mouvement où le progrès est toujours indispensable et toujours nécessaire. Puisque un bilan co-avantage, c'est facile quand dire je vais faire A de positif ou B une autre alternative. Mais quand je décide de ne rien faire, c'est beaucoup plus difficile de faire un bilan co-avantage. Donc je crois que là, il y a un point de rapprochement qui est une convergence qui est tout à fait bien vue et pertinente.
Alors, qui veut se lancer ? Emmanuel Picalvé, donc, qui co-anime la chaire Ticket Finance avec moi-même.
Merci beaucoup. Merci à vous deux, évidemment, pour ces exposés passionnants. Donc j'ai une question dont je sais qu'elle sera extrêmement simple par rapport au potentiel des approches cybernétiques. Mais en fait, c'est une question sur la notion d'équilibre. Vous avez critiqué l'un et l'autre l'équilibre, en tout cas la transposition de modèles d'équilibre à des réalités sociales qui n'y sont pas vraiment sujettes, comme chez Thomas, ou à des réalités sociales que l'on souhaite en fait en déséquilibre, comme exposé Dubin. Mais n'y a-t-il pas plusieurs sens de l'équilibre ? Il y a l'équilibre de l'offre et de la demande. Donc il y a des raisons de penser effectivement que des modèles de déséquilibre sont plus pertinents dans certains cas que des modèles d'équilibre. La tradition autrichienne en économie insiste sur l'importance extrême du déséquilibre, des situations essentiellement transitoires, par contraste avec l'importance donnée par les néoclassiques à l'équilibre. Néanmoins, n'y a-t-il pas quelque chose qui est tout de même important pour, je dirais, toute compréhension du social, à savoir l'adaptation des comportements les uns aux autres ? Quelque chose qui est pris en compte, par exemple, dans les approches de théorie des jeux de l'équilibre et dans la plupart des approches politiques de la vie sociale. Donc ces vieilles idées qui viennent en grande partie de la tradition de la philosophie politique, des observations des historiens aussi. Cette notion toute simple d'après laquelle on ne peut pas comprendre les comportements isolément puisque les comportements s'adaptent les uns aux autres. Et ils s'adaptent les uns aux autres non pas par simple action et réaction, mais par réflexion, du fait de la réflexion des agents. Moi, je pense que c'est quelque chose qui reste toujours important, et qui est important notamment pour comprendre les croyances contemporaines dans des formes d'autorégulation sur lesquelles on prétend par ailleurs, et comme en second lieu, déployer des efforts de régulation. Ce qui est très important pour comprendre comment la politique se pense aujourd'hui, comment le gouvernement se pense, parce que je pense qu'il se pense essentiellement comme cela, ce qui crée évidemment un déséquilibre très fort avec les représentations du public, le grand public, nous-mêmes probablement en tant que citoyens ordinaires, nous ne nous représentons pas du tout la politique comme ça. Nous, pour qui la politique, sauf exception, je sais pas, n'est pas un métier, nous nous représentons plutôt la politique comme une forme d'action dans laquelle nous agissons sur le social, sur le réel et même sur la nature pour provoquer des changements en fonction de valeurs, etc. Or, les professionnels de la politique aujourd'hui... Je ne crois pas me tromper beaucoup en prétendant que pour une grande partie d'entre eux, ils voient leurs efforts comme des efforts de régulation de systèmes sociaux qui sont toujours supposés à peu près capables de se débrouiller tout seuls par adaptation réciproque des gens les uns aux autres, par résolution spontanée des problèmes, par invention spontanée de mécanismes de résolution, qu'il s'agisse de l'économie et de la finance, des médias, de la vie universitaire, du sport, je ne sais quoi encore. Je pense que c'est aussi la manière dont on voit des systèmes d'action sur lesquels il faudrait peut-être agir beaucoup plus, comme l'emploi, le logement, etc. Donc est-ce que c'est pas tout de même quelque chose d'important à prendre en compte? Est-ce qu'il ne faut pas sauver un concept d'équilibre, même si les représentations qu'on en a sont peut-être exagérées, trop confiantes? Mais ça joue un rôle important. Moi, je pense que ça joue un rôle important dans la réalité tout de même. Et ça joue aussi un rôle important dans les représentations qu'on se fait des systèmes sur lesquels on agit. Là, il y a peut-être un problème, d'ailleurs, puisque, à mon avis, ça nourrit des représentations trop modestes du rôle que l'on a sur des systèmes sociaux.
Ouais, j'ai pas vraiment de désaccord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que à y réfléchir, la question rejoint finalement la dernière feuille de papier à cigarette peut-être qui restait entre Hubert Audary et ce que j'ai dit, à savoir que la cybernétique, le modèle cybernétique est un modèle précisément en fait de maintien des équilibres, de constance, d'ordre. Enfin, c'est ce sur quoi insistent les positivistes du 19e siècle. Claude Bernard en un sens, Auguste Comte dans un autre. Il faut un ordre pour qu'il puisse y avoir ne serait-ce que l'idée d'un progrès et d'une adaptation précisément. J'ai été amené à insister sur les mésusages quoi du concept de régulation. On a mal compris et du coup on a cru que ça pouvait s'accommoder à un déséquilibre structurel. Hubert Audary, au départ, si j'ai bien suivi, a plutôt montré que au fond il y a eu un usage, disons, de dispositifs, mais en fait c'est la même chose quoi, mais de l'assurance qualité, etc., comme facteur de contrôle. De contrôle et de maintien de stabilité. Et au fond, il a un concept un peu plus critique en première approche que moi de l'usage du paradigme cybernétique en sciences sociales, en disant en fait, on l'a mal utilisé, ça a produit un golem, etc. Mais je crois, enfin, il me semble que dans l'ensemble, on s'accorderait à dire que oui, en effet, il y a un équilibre social à trouver ou à définir, mais indépendamment, c'est ça le seul problème en fait du seul modèle économique ou enfin du seul cadre économique. Ce que disait même Valras d'ailleurs, à vrai dire, quand il parle de régulation marchand, il prétend pas que le marché c'est l'ensemble de la sphère sociale en fait.
Oui, c'est la dernière partie que je voulais ajouter. C'est effectivement il y a quand même deux sujets. Il y a le sujet proprement économique qui devient envahissant, hein. C'est par justement la systématisation, l'économisation des relations sociales et par l'introduction systématique du bilan coût-avantage. Ça, c'est de mon point de vue, c'est une déviance. Hein. Mais les outils cybernétiques pour justifier des équilibres économiques, là aussi, c'est un mésusage complet d'un dispositif tout à fait naturel, parce qu'on n'est pas, mécontent que notre corps maintienne les constantes de température. Et quand on a un peu trop de tension, on fait quelques apports médicamenteux pour que le corps maintienne cette constante dans les niveaux acceptables. Donc, c'est deux plans différents. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que dans l'ordre technique de l'organisation de l'économie, il y a une utilisation néfaste du corpus scientifique pour maintenir des déséquilibres qui agissent de façon malsaine. Hein. Et c'est le propos de quelques chapitres. C'est pour moi la génération de la dette qui ne cesse pas et le marqueur de l'évolution du caractère néfaste des principes qui régissent l'échange économique. Vous voyez, donc je vais plus loin que ce qu'on dit, vous savez, la finance qui a pollué l'économie réelle. Moi, je dis non, c'est l'économie, l'organisation de l'économie réelle sur la base d'échanges déséquilibrés produit un système financier qui a le premier cassé. Mais c'est les échanges économiques de biens entre industriels. Et pour preuve, j'en voudrais, mais c'est plus de l'ordre de la métaphore que de la justification scientifique. Hein. Moi, j'aime bien regarder dans les systèmes, c'est quid fecit protest, hein, celui qui bénéficie et celui qui a profité du système. Hein. C'est celui qui a justifié le système. Et bien, quand vous regardez qui est-ce qui a gagné au bout de 15 ans d'organisation, ce sont les entreprises, ce ne sont pas le système financier. Le système financier, il est à la ramasse. Il est perclus de dettes, tout le monde lui tombe dessus, on le réglemente, surréglemente, c'est le coupable, vous voyez. Et aujourd'hui, qui gagne? Et bien, on va prendre là aussi une métaphore, c'est Apple, qui en début des années 2000 était une entreprise équilibrée et aujourd'hui a 200 milliards de trésorerie nette. 200 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ben, c'est hallucinant. Ben, c'est la dette grecque, quoi. La totalité de la dette grecque dans une entreprise. Et tout ça en exploitant le système de déséquilibre entre les conditions de production à bas coût qui font violence sur le corps social chinois, puisqu'il n'y a pas ajustement de la valeur de son travail, et de faire cette fameuse supply chain et en vendant aux Chinois, au prix des Américains, les mêmes appareils. Vous voyez, c'est ça la vraie problématique. Vous voyez, donc là, dans ces équilibres qui ont été maintenus de façon cybernétique, qui ont été justifiés par la science avec des systèmes de rétroaction, là, il y a des dysfonctionnements parce que la rétroaction, elle est inadaptée. Hein, et donc il y a la dette qui est un des éléments, mais il y a ce qu'on appelle dans notre jargon les réserves en compte de capital de change des banques centrales qui viennent polluer complètement. Et là, vous avez des présentations de l'équilibre au niveau économique qui sont falsifiées. Par exemple, quand M. Greenspan parlait de ces réserves de change comme une épargne qui venait s'investir naturellement dans un lieu. Les États-Unis dans lequel la productivité est meilleure, mais c'est complètement falsifié la réalité. Vous voyez, c'était des prêts qui étaient faits pour la consommation. Et quand on regarde l'évolution de la production industrielle par tête d'habitant et la production et la consommation par tête d'habitant sur 40 ans, on voit très bien que le modèle économique soi-disant autorégulé a privilégié la consommation à celle de la production. Vous voyez. Alors, dans l'ordre social, on le voit dans l'ordre microéconomique, puisque, effectivement, il y a les dysfonctionnements et les effets néfastes que produit ce genre de système imposent un contrôle de la population. Et c'est là où on peut faire ce paradoxe. Et dans le livre, alors, il y a un auteur économique qui a parlé de la régulation, c'est Schumpeter. Et Schumpeter a montré déjà que dans la promotion du critère utilitariste et l'économisation de la société tel que le développait le capitalisme des années 30, on aboutissait à la nécessité d'une bureaucratisation parce que le principe utilitariste appliqué à l'ensemble des choses humaines est terriblement destructeur. Rien n'y résiste. Le bilan coût-avantage, je dirais, ça détruit tout. Voilà. Et donc, c'est ça, cette systématisation de ce principe organisé au sein d'une cellule, je dirais, cybernétique. C'est ça la nouveauté par rapport au temps de Schumpeter. Wiener et Blumenthal étaient passés entre-temps. Hein.
Autre question. Il y a des micros par là-bas. plus qu'une question, ça serait plutôt une remarque. Il me semble, Hubert, dans ce que tu décris, c'est qu'au fond, il y a un conflit sur l'historicisation de l'économie, c'est-à-dire les actes sociaux, les actes humains qui sont posés soit par les institutions, soit par les individus, font l'objet de différentes histoires, et que c'est ce conflit d'historicisation qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire... l'histoire du bilan coût-avantage, c'est est-ce qu'on peut réduire l'histoire à une problématique de type binaire coût-avantage ? Ou bien est-ce que l'histoire humaine n'est pas quelque chose de plus grand, avec intégrant un principe d'incertitude et un horizon d'attente auquel toute action économique devrait répondre ?
Tout à fait. C'est un point qu'on peut creuser, mais globalement, tout à fait. C'est pour ça que le dernier mot de ma présentation, c'était le mot temporalité, puisque mon constat de praticien, c'est que le temps est le plus grand oublié et celui que l'on veut dégager le plus des schémas sociaux et d'organisation de régulation. J'avais noté une citation de M. Fancini qui disait que l'hyper-procéduralisation produit une contraction du temps. J'aime bien cette formule parce que ça veut dire que quand on fait une procédure, on établit une causalité d'action entre elles et on fait une chaîne de causalité. Et donc, à partir de ce moment, on est dans du positivisme pur. C'est-à-dire, en matière sociale, on a contracté le temps. Ça, ça ne rend pas les gens heureux parce qu'effectivement, l'être humain est quelqu'un qui vit dans le temps, même si ce n'est pas très bien ce que c'est que le temps. Alors après, dans ta remarque aussi, il y a un deuxième sujet, c'est comment traduire dans les relations sociales le caractère irréversible et le caractère cumulatif des actions. C'est ça le point qui est central. Hein. Irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, donc ça choque déjà la démarche positiviste. Et puis cumulatif, on en sait quelque chose avec la problématique de l'action sur l'environnement. L'addition des actions s'empilent, s'entassent et ne disparaissent pas du fait de la disparition de l'action. Voilà. Et après, c'est un élément du donné concret de l'actuel dans lequel le suivant va agir. Ou même le sujet à l'instant est plus un vrai. Donc je suis bien d'accord avec ta remarque. Oui.
Question.
Un actuaire.
Tu vas pas en parler, donc. Non.
Je ne les ai pas critiqués aujourd'hui.
Non, parce que moi, quand j'ai écouté ça, sur le. Alors, je n'ai pas du tout la compétence, un certain nombre de choses, mais sur le sujet de l'utilisation d'un certain nombre de concepts scientifiques par rapport à des univers qui sont l'univers, effectivement, des champs sociaux ou autres, moi, j'avais été frappé de la lecture, il y a une dizaine d'années, d'un livre de Sokal et Bricmont qui reprenait un certain nombre de concepts scientifiques qui étaient utilisés, on le voyait bien, dans le domaine des sciences sociales, dans un cadre qui était complètement inadapté et qui, donc, conduisait à des aberrations, voire parfois à des contresens. Je pense qu'ici, un certain nombre, c'était plutôt des sociologues qui étaient visés et quelques psychanalystes, mais est-ce qu'on n'est pas finalement... Oui, mais est-ce qu'on n'est pas encore en train de tomber dans un mécanisme un petit peu de même nature, puisque typiquement si on prend les marchés financiers, on sait qu'on a un certain nombre, par exemple, de modèles mathématiques qu'on utilise dans des cadres où les conditions d'application ne sont pas respectées, pour autant tout le monde se réfère à ces modèles-là, et donc est-ce que finalement la métaphore cybernétique, c'est pas un avatar particulier pour une science sociale particulière qui serait l'économie, d'un principe général où on essaie d'utiliser des concepts de science exacte dans des cadres où ça ne s'applique pas directement ? Autrement dit, est-ce que c'est pas un cas particulier d'un processus plus général de... Voilà.
Pourquoi pas, mais avec... oui, l'idée, d'une part, que la caution de scientificité a encore plus marché, c'est-à-dire qu'il y a voilà, une... Ça a totalement colonisé, si j'ose dire, l'économie orthodoxe, enfin, voilà. Et d'autre part... il s'agit pas tant d'un concept scientifique que d'un concept technologique. Alors, c'est scientifique dans le cas de la biologie organique, mais dans le cas de la cybernétique, c'est une tentative de transfert de l'étude des organismes vivants vers quelque chose qui n'est pas une étude, mais qui est plutôt une tentative de construction de machines, quoi. Voilà. Avec l'idée derrière, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la question de l'apprentissage. Wiener dit Après tout, on pourrait imaginer, on pourrait en tout cas, oui, imaginer à défaut de concevoir, une machine qui serait capable, en effet, de transformer son propre, ses propres contraintes d'asservissement. Hein, vous l'avez d'ailleurs évoqué. Ça s'appelle l'apprentissage, quoi. Mais ça, c'est les êtres vivants qui le font. Les machines ne le font pas encore. Mais dans le cadre de l'intelligence artificielle ou des recherches actuelles en intelligence artificielle, ça, pour le coup, ça fonctionne bien, quoi. La question est de savoir. Là, pour le coup, je sais pas très bien. Enfin, j'en connais moins. J'aurais pas vous le dire, mais dans quelle mesure, voilà, un certain nombre d'économistes ne sont pas en train d'enfourcher. Et je pense que si, en fait, enfin, de manière certaine, d'enfourcher le cheval de l'intelligence artificielle pour avec toujours le même fantasme, en fait, de systèmes organiquement autorégulés et en progrès perpétuel et désormais invincible. Enfin, voilà.
Mais pour compléter ce que dit Thomas, c'est effectivement, Wiener dans Golden Golem, c'est vraiment le sens de son livre, voit bien que ce qu'il a déterminé comme processus opérationnel de maîtrise d'un ensemble complexe, via la rétroaction et la procédurisation, va prendre de l'importance dans le domaine social. Et là, il tire une sonnette d'alarme, notamment en matière économique. Et il écrivait en 63, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il dit toutes les théories économiques sur lesquelles on va fonder cette régulation sont tirées d'idées très anciennes et passablement démodées du 19e. Et c'est vraiment, l'achèvement de cette tendance qu'il avait discernée en 63 qui aujourd'hui produit la crise de 2009. Et ce que disait Christian et tous nos collègues en 2009-11, quand on a essayé de qualifier le concept de d'appréhension de l'incertitude par l'aléa gaussien, c'était déjà dans la critique de Wiener en 63. Et alors, de façon un petit peu amusante, il cite comme alternative à cette modélisation gaussienne les premiers travaux de Mandelbrot. Qui avait déjà travaillé, c'était vraiment les premiers travaux, mais bien évidemment, Mandelbrot n'a pas été écouté et l'autoroute gaussienne a été utilisée. Et là, on vient dans la phrase qu'on aime bien citer de Duhem, c'est que les opérateurs, c'est-à-dire les industriels, ils ont préféré la formule facile, mais fausse, à un dispositif de calcul plus complexe, mais moins opérationnel. C'est ce qu'on peut dire, la tentation gaussienne, elle a été franchie dans les années 70-80, notamment par l'école américaine du risque.
Ce qui est fascinant dans l'affaire, et ce qui est différent, je crois, des impostures intellectuelles dénoncées par Sokal et Bricmont, c'est qu'on n'a pas affaire, disons, à un effet de mode. C'est que là, je crois, le succès, disons, de ces transferts bizarres d'un champ scientifique ou d'un champ technologique au champ social, c'est au fond un imaginaire social extrêmement puissant. Enfin, c'est pas juste un effet de mode de quelques philosophes français Oui.
Ah non, c'était général, c'était général. Hein.
Oui, je crois qu'il y a derrière, c'est vraiment un. Voilà, je crois s'interroger sur la question de savoir pourquoi est-ce que c'est manifestement faux. La réfutation a été faite à la fin du 19e siècle, et c'est toujours les mêmes idées, et ça fonctionne toujours. C'est ça qui est étonnant. C'est
l'homéostasie.
Oui. Pardon, oui. Peut-être juste un commentaire, et après, Nicolas, à moins que tu veuilles rebondir sur ce qui a été dit à l'instant. D'accord, vas-y. Vas-y.
Justement, en rebondissant, j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur l'origine du débat, savoir que la controverse théologique entre Leibniz et Newton. Donc, je suis sociologue des religions, donc je m'intéresse beaucoup plus à cette dimension-là. Mais ce qui me paraît intéressant, dans ce que vous venez de dire exactement aujourd'hui, c'est la question de la qu'est-ce qui alimente un imaginaire social. Or, si on prend une analyse du religieux comme étant la part obscure du langage qui habite le langage et qui lui permet de fonctionner autour d'un vide, puisque c'est un personnage fictionnel. Au moins d'un point de vue scientifique, cet être divin, à ce moment-là, on est dans un lieu, la construction d'un imaginaire autour du langage qui est une construction permanente et donc qui est pousser à l'inventivité constante. Or, ce que vous venez de dire, c'est qu'à partir du XIXe siècle, ayant perdu de vue ce point obscur du langage, de ce personnage fictionnel, on tourne forcément autour des objets qui sont les objets concrets et visibles par le corps social, à savoir soit l'organisme biologique, soit les organismes de machine, les fonctionnements machinaux, etc. Et donc, du coup, ça vaudrait peut-être la peine un jour de s'interroger et de dire, mais qu'en était-il du débat théologique et qu'est-ce qu'il permettait de créer du point de vue, enfin, quelle était son efficace au point de vue de l'imaginaire social?
Vous êtes contien, en fait.
Quelque part, oui.
Une critique, hein, franchement.
Je dirais, il faut repartir là-dessus. Mmh. De ce que je conclue de votre intervention, je me trompe peut-être.
Peut-être, tant qu'Emmanuel, avant que tu veuilles rebondir, on continue à rebondir.
Okay. Non, c'est juste un mot pour défendre les transferts. Je pense que c'est pas seulement des modes, c'est pas seulement des mécanismes intellectuels tortueux comme ceux qu'a bien analysé Dominique Théré dans son livre, dans son très beau livre d'ailleurs, sur les dérives de l'argumentation scientifique. Donc pas des impostures à la Bricmal et Sauquemont, mais Bricmont et Sauquemont. Non, pas des démarches d'imposture ou de... Mais des démarches simplement dans lesquelles on se laisse entraîner juste un petit peu trop loin par les idées que l'on défend ou par les modèles que l'on développe d'une manière qui n'est pas frauduleuse, qui est une manière qui est compréhensible, intéressante, mais qui effectivement conduit à aller trop loin ou pas dans la bonne direction. Bon. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même assez impressionnant, c'est que dans différents moments de l'histoire, et vous en avez cité plusieurs, il y a effectivement des transferts importants entre la compréhension biologique, la compréhension des systèmes artificiels et la compréhension des interactions sociales. Et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est parce qu'il y a vraiment des questions qui sont semblables, il y a des modèles qui s'appliquent à ces différents cas. Et ça, je dirais que ça continue, ça a continué très tard dans le 20e siècle et encore dans le 21e, par exemple pour des questions qui à mon avis sont pertinentes pour les questions que vous vous posez, les questions d'enfermement dans des principes qui conviennent pas, ou dans des conventions qui s'appliquent de manière assez dure et qui font que simplement les individus s'adaptent les uns aux autres au lieu de remettre en cause les conventions sous-jacentes. Dans des domaines d'analyse comme cela, il y a encore eu des transferts assez récents. Par exemple, dans son étude des conflits dans les sociétés animales, Maynard Smith s'est inspiré de la théorie des jeux, un biologiste qui a utilisé des modèles venant des sciences humaines pour théoriser la manière dont les conflits se stabilisent dans des populations animales et surtout la manière dont se stabilisent des modes de réaction typiques, des comportements plus ou moins agressifs. Et des modèles de sortie de crise. Et ensuite, c'est revenu tranquillement, en sens inverse, vers les sciences humaines et sociales, avec le développement de concepts sophistiqués, de conventions, se sont largement inspirés, ou d'équilibre économique évolutif, qui se sont largement inspirés des travaux de Maynard Smith, comme chez Robert Sogdon en particulier. Voilà, donc ça continue. Moi, je dirais que c'est à peu près inévitable dans la mesure où les gens se posent des questions qui sont strictement homologues, qui appellent par ailleurs des efforts intellectuels constructifs. On ne peut pas ne pas s'inspirer de ce qui existe.
Juste un bref commentaire question, mais moi ce qui m'a frappé dans les deux exposés, c'est que au départ, en partant de l'idée du Berodari, on voit que la cybernétique est utilisée comme instrument critique de l'économie pour faire apparaître des dysfonctionnements, des dérives économicisantes de l'économie. Donc on dit tiens, la cybernétique c'est intéressant comme usage et de transfert pour ces critiques. Mais en écoutant le second exposé, en fait on a l'impression que finalement, l'imaginaire cybernétique est en amont de l'économie. Donc au début, on se dit c'est en aval comme critique, et après, on dit c'est en amont comme fondement. Donc là, il y a une sorte de va-et-vient entre finalement l'aval, mettons, selon le livre du Berodari, et l'amont, selon ce que vous développez, vous, comme construction imaginaire de l'économie. Donc c'était à la fois un commentaire et en même temps une question.
Oui, c'est vrai. Ben, oui, mais le plus étonnant, c'est que en fait, on en arrive aux mêmes conclusions. En fait, c'est simplement une voilà, ça vient, je crois, juste de la. Enfin, c'est un, comme je le disais, je crois que c'est pas par hasard en fait que vous en êtes venu à utiliser cette notion de cybernétique. En fait, on est d'accord sur le fait que la cybernétique est, enfin, disons que l'ordre économique contemporain se fonde sur un imaginaire systémique dévoyé. Voilà, vous utilisez des concepts critiques dont je montre qu'en fait ils sont, oui, ils sont effectivement. Constitutif de ce système dévoyé, oui, c'est ça. C'est juste, je pense qu'on est vraiment sur la même ligne, en fait.
Donc, c'est normal qu'on retrouve une cybernétique en aval, puisqu'en amont, elle était présente avant d'être dévoyée.
Exactement. C'est ce que j'ai voulu dire en disant, c'est pas par hasard, finalement, voilà. qu'il est tombé sur la cybernétique.
Moi, je crois que le mot important que tu as proposé, c'est le mot systémique, parce que on voit que au XXe siècle, il y a quand même une volonté de construire un système complexe qui s'étend à l'ensemble de la société. Alors Schumpeter a fait cette critique sur le capitalisme de son époque. Zinoviev l'a fait en employant des arguments assez analogues et en montrant que la structure de contrôle du système soviétique était beaucoup plus fort. Elle n'était pas uniquement liée à un contexte historique, il était structurel au fond, avec un principe d'action qui imprégnait la régulation des cellules qui constituaient l'ensemble de la société soviétique. Et je crois que l'usage de la cybernétique a été une réponse, en utilisant un concept transposé, hein, a été une réponse d'une part à la critique de on va appeler ça la loi de la jungle, hein, le système sans règles, avec face à l'alternative que dressait Schumpeter, c'est la bureaucratisation sans fin d'une société qui se socialise complètement. Et donc la cybernétique, de mon point de vue, a été la boîte à outils qu'on a saisie dans les années 50 pour contrôler ces ensembles sans tomber dans l'affirmation d'une organisation centralisée et en sortant de la problématique du pas de règles, jamais de règles et rien interdit, tout interdit, oui. Donc je pense que là, effectivement, il y a peut-être une histoire de la progression de cette idée avec, effectivement, la réponse...
Feedback, oui.
et la réponse. Et je pense que là, il y a finalement peut-être un désir un peu prométhéen de recréer un ordre dont la justification est uniquement scientifique et non pas se réfère ni à un effet de nature, ni à un système de transcendance, hein, comme dans l'espace religieux. Je crois que là, c'est la caractéristique particulière de ce temps. Mais mon constat de professionnel agissant, hein, c'est qu'aujourd'hui, on est en plein golem, c'est-à-dire en mécanique anonymisante, dépersonnalisante, et qui va produire des dysfonctionnements de façon, paroxysmique, au fur et à mesure de l'amplification. Hein, la crise suivante sera pire que la précédente, quoi. Hein, la crise de 95, elle était asiatique, elle était moyenne. La crise de 2009, elle était énorme. La suivante, elle sera dramatique. Voyez, parce que les systèmes ne sont pas réels, quoi. Voilà, ce sont des mécaniques.
Voilà. Bien. Autrement dit, l'imaginaire cybernétique conduit à penser qu'on va pouvoir être God, et ça finit en fait en golem, quoi, finalement. Bien, il est 19h. Je propose de... S'il y avait une dernière question. Oui. Alors, une dernière question et après nous terminons.
C'est pas une question, c'est un commentaire que j'ai entendu récemment, Monsieur Laville. Dans le séminaire sur les mouvements sociaux, et il disait qu'effectivement on vivait encore sur les dérives et les erreurs de la deuxième partie du 19e, donc que vous avez largement évoqué, qu'il fallait revenir au premier 19e siècle pour trouver peut-être de nouvelles solutions, parce qu'il est peut-être plus utopique, mais bon, ça me paraissait presque magique par rapport à tout ce que vous dites. Bon, c'était donc clin d'œil par rapport à ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur ce 19e siècle dont vous avez très 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 finement décrit les impasses dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, et la conclusion n'est pas forcément très réjouissante. d'après ce que vous dites. La crise sera pire qu'avant. Donc bon, voilà.
Il y a des chances.
Donc je ne sais pas si le premier 19e siècle peut être une ressource. Ça m'a surpris que M. Laville insiste sur cette donnée-là. Mais bon, peut-être qu'il y a des choses à revoir de ce côté-là. Mais bon, vous en savez plus que moi au niveau des penseurs qui ont agi à ce moment-là sur toute la pensée du futur. Voilà.
Bien. Merci. Voilà, donc nous terminons la fois la séance de l'année et la séance du séminaire. Nous remercions Hubert Rodary et Drapeau Congibo de cette très belle discussion. Et le séminaire reprend à la rentrée le 21 septembre. Nous recevrons Marc Chesnais de l'Université de Zurich qui nous parlera de la prise du pouvoir des normes réglementaires et financières par les élites, en quelque sorte, industrielles ou de la finance, pour faire apparaître la façon dont on construit une normativité financière en fonction d'intérêts particuliers. Ce qui est un sujet, à mon avis, qui rejoint aussi la notion de contrôle totalisant dont on parlait aujourd'hui. Voilà. Le site de la chaire est toujours à jour. Le séminaire, ses transparents seront mis en ligne d'ici la fin de la semaine. L'adresse, vous l'avez sur le mail que vous recevez. Donc n'hésitez pas à consulter le carnet de la chaire et le site du séminaire. Et vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur la régulation et la cybernétique. Bon été à tous et à l'année prochaine. Voilà.
Merci.